marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Ici Paris, Radiodiffusion française présente...
Plus qu'un document, c'est vraiment une œuvre.
Et en tout cas ce vendredi, un témoin, Luc de Goustine, la réception de Solzhenitsyn en France.
Il y a une histoire de la réception de Solzhenitsyn en France qui serait passionnante à faire. La réception de Solzhenitsyn a été beaucoup plus sophistiquée, compliquée et mal intentionnée que dans le monde anglo-saxon. Et une explication que je crois assez juste, à savoir la révolution russe de 1917, nous la considérons comme nôtre parce que nous sommes idéologues, nous avons une autre révolution à nous. Et l'entreprise de Solzhenitsyn a plus de peine, disons, à pénétrer chez nous, à s'infiltrer chez nous.
Premier témoignage, celui de Georges Niva, qui participe de très près aux différentes opérations, expositions, publications pour le centenaire de la naissance de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn qui aurait aimé qu'on salue les invisibles, comme il les nommait, tous ceux qui ont permis que ses écrits dans un souterrain soit préservé clandestinement, puis voit le jour. En Union soviétique, il formait une conspiration du secret, un triangle de soutènement. Solzhenitsyn disait qu'ils avaient beaucoup sacrifié sans même recevoir en contrepartie l'admiration des hommes qui rend plus douce la mort et la ruine de nos vies. Ceux qui, à l'étranger, ont contribué à diffuser l'œuvre de Solzhenitsyn ont été souvent mieux récompensés. Ce n'est pas le cas de tous, qu'on pense au courageux attaché culturel de l'ambassade de France, Stéphane Tatischev, puis Yves Amand, qui servait d'intermédiaire en prenant leur part de risque. Ou à notre témoin d'aujourd'hui, Luc de Goustine. Qu'il soit resté en coulisses n'étonne pas vraiment. Au théâtre, où il a beaucoup travaillé, il a moins été acteur que traducteur. Et dans tous les lieux où il se tient par fidélité, la tentation du départ l'habite. C'est un gentilhomme dissident à sa manière. Grand connaisseur des troubadours, des ménestrels, il est comme eux habile à tous les tours. Il est traducteur, on l'a dit, écrivain, il a tenu une librairie, même dirigé un foyer Emmaüs. Éditeur, il a été le premier sur la place de Paris à signer un vrai contrat avec un représentant de Solzhenitsyn, c'était en 1971, pour le début de la Roue Rouge. L'écrivain avait déjà reçu le Nobel de littérature, mais il vivait à l'époque isolé, empêché en Union soviétique. Il lui fallait bâtir à l'étranger ce qui allait devenir ses deux cathédrales, la Roue Rouge et l'archipel du Goulag.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Luc de Goustine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu de vos terres limousines, où vous vivez loin de Paris depuis longtemps. Mais je voulais vous faire évoquer ces années autour de 1968, où vous étiez là aux éditions du Seuil, un éditeur important, rue Jacob, au cœur du quartier latin. Alors c'est pas parce que vous vous intéressez à Solzhenitsyn que vous êtes un homme insensible aux sirènes de mai 68, par exemple.
Non, je me suis fait attacher au mât du navire pour ne pas les suivre jusqu'au bout.
Le 10 mai 68, après une nuit de barricade, vous écrivez d'un jet une pièce. Libérez nos camarades.
Le 10 mai 68, oui, c'était la rue Gay-Lussac. Vous savez, c'était un très bel endroit où j'ai rarement vu des gens à qui on avait brûlé leur voiture descendre dans la rue pour serrer la main des incendiaires.
Alors, au moment où beaucoup pensent que Solzhenitsyn n'est lu, connu que par les réactionnaires, il fallait situer les différentes possibilités de réception de son œuvre en France. Le Seuil n'était pas une maison de droite.
Non, mais nous allons briser toutes les catégories.
Avant 1962, avant la publication, c'est même fin 61, d'une journée d'Ivan Denisovitch, Solzhenitsyn avait fait 8 ans de camp entre 48 et 53. C'était ensuite un modeste professeur de sciences, 30 heures d'enseignement et plus dans une école secondaire dans le Kazakhstan, puis on l'autorise à revenir en Russie centrale, mais là encore, il a beaucoup de difficultés à écrire parce qu'il doit beaucoup d'heures d'enseignement. Très important, le rôle d'une revue, Novimir, d'Alexandre Twardowski, qui va publier son premier texte.
Oui, ça a été un grand événement, et un événement dans l'ensemble salué très positivement. Ce qui n'a pas été le cas des textes suivants.
Max-Paul Fouchet, à Lecture pour tous, au moment de la traduction française d'Une journée d'Ivan Denisovitch. 13 des louanges au texte.
Alexandre Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch. Comment parler de ce livre? Pour en bien parler, pour en justement parler, il faudrait avoir vécu ce qu'a vécu l'auteur. Mais disons tout d'abord.
5h du matin. Comme tous les jours, sonne le réveil à coups de marteau sur le bout de rail qui pend près du baraquement de l'état-major. Les coups saccadés ont du mal à traverser les vitres et les deux doigts de givre dont elles sont recouvertes, et bientôt, ça cesse. Il fait froid. Le gardien n'a aucune envie de sonner longtemps. Le son s'éteint. Dehors, tout est resté comme lorsque Choukov s'est levé en pleine nuit pour aller aux chiottes. C'est noir, tout noir, avec trois lanternes jaunes qui donnent dans la fenêtre, deux sur la zone de surveillance, une sur l'intérieur du camp. Ils ne viennent toujours pas ouvrir la baraque, et on n'entend pas les hommes de corvée enlever la tinette et l'emporter avec leurs barres de bois.
Ce livre est un événement. Pour la première fois, une œuvre littéraire dénonçait certains crimes du stalinisme. Certes, depuis le 20e congrès, depuis que M. Khrouchtchev avait dénoncé lui-même ces crimes, la littérature soviétique avait fait souvent des allusions, et même plus que des allusions, à la période que l'on a appelée la période de la Grande Purge. Mais jamais peut-être un texte ne mettait ainsi, noir sur blanc devant ses lecteurs, l'horreur des camps de concentration en Russie soviétique. C'est plus qu'un document, c'est vraiment une œuvre. Et une œuvre qui parfois est traversée d'un humour atroce, d'un humour noir, disons. Lorsque, par exemple, on nous représente des hommes qui vont travailler sur un terrain où l'on enfonce dans la neige et qui commencent par enfoncer dans cette neige des piquets pour tendre les fils de fer barbelés qui les emprisonneront, c'est-à-dire des hommes qui construisent eux-mêmes leur futur camp de concentration. Cela est dit de telle façon en passant que cet humour est déchirant.
Et c'est dit toujours d'une façon concrète. C'est à travers de son expérience qu'il parle.
Oui, c'est une des choses qui a beaucoup frappé ceux qui l'ont lu, et notamment parmi les communistes qui avaient vécu une vie ouvrière. C'est que Denisovitch était l'un des leurs, était un humble.
Vous parlez des communistes, alors il y a un journal auquel les éditeurs, et puis beaucoup de lecteurs, sont très attentifs à l'époque, surtout qu'il a tendance à évoluer et à devenir plus ouvert. C'est les Lettres françaises, dont Aragon, le directeur, disait que ça allait devenir les Lèvres françaises. Et le rédacteur en chef des Lettres françaises, hebdomadaire lié au Parti communiste, avec beaucoup d'abonnés obligés en Union soviétique, c'est Pierre Dex, que vous avez bien connu, et qui, lui aussi, a eu une expérience comparable à celle de Solzhenitsyn, l'expérience du camp de concentration allemand.
Oui, j'ai vu moi-même Pierre Dex sangloter à la pensée de la révision déchirante que cette œuvre avait produit en lui, car elle avait eu d'emblée un impact sur la doctrine qu'il avait jusqu'à présent maintenu concernant l'Union soviétique, le socialisme en général. Et cela a commencé chez lui comme une véritable crise de conscience qui s'est étendue sur des années, puisqu'il avait eu le courage d'acclamer cette œuvre en 63 et qu'ensuite il est revenu dessus à plusieurs reprises.
Alors voici un témoignage de lui des années 70 et où il évoque les conséquences pour Solzhenitsyn de la publication d'Ivan Denisovitch. Les portes de l'Union des écrivains sont ouvertes à Solzhenitsyn, mais en même temps, il sait qu'il a une mission à remplir qui ne peut pas encore voir le jour et qui doit se poursuivre dans un souterrain, vous savez, sous les isbars en Russie, il y a un petit espace auquel on accède par une trappe où on ne peut pas se tenir debout.
Alors commence, en quelque sorte, la double vie d'Alexandre Solzhenitsyn, qui devient tout d'un coup un écrivain révélé et un écrivain exposé en même temps, exposé aux manœuvres de la police, exposé aux intrigues de l'Union des écrivains, puisqu'on a publié une journée d'Ivan Denisovitch, mais qui en même temps sait que toute une partie de son œuvre est impubliable et qui continue cette œuvre souterraine qui va donner l'archipel du Goulag, qui va donner le chêne Elvaux. C'est l'œuvre souterraine qui donne à Solzhenitsyn la force morale de déjouer les intrigues auxquelles il est exposé et lui donne en quelque sorte, si vous voulez, le moyen de triompher de toutes les embûches. Parce que finalement, on ne publiera qu'une journée d'Ivan Denisovitch, on ne publiera que les nouvelles, comme la maison de Matryona, la connue de Kretchekov-Tovka, on ne publiera pas le pavillon des cancéreux, qui pourtant était une œuvre publiable, simplement parce que là, il y a les limites du système, les limites de la censure.
On peut imaginer ce qu'était le système souterrain qui voulait répondre au système de la censure à l'époque d'Internet. Le samizdat et ses méthodes, c'est assez inconcevable.
Inconcevable aujourd'hui, inconcevable. Et pourtant, quand on imagine qu'un immense pays, et pas seulement par la taille, mais par la tradition littéraire, comme la Russie, a pu être comme une sorte de maquis dans lequel se cachaient les créateurs pendant des années, et que leurs œuvres ne pouvaient passer que par des moyens détournés, sans cesse guettés, repérés par le KGB, et le plus souvent, hélas, trahis par leurs propres confrères siégeant à l'Union des écrivains.
Il va de refuge en refuge pour se tenir à l'écart, et il confie à des camarades, parfois des anciens compagnons de détention, ceux qu'il a appelés les invisibles, dans un volume où il leur rend hommage, des textes dactylographiés.
Oui. Mais oui, mais aujourd'hui...
Et qu'ensuite on va répéter, redactylographier.
Nous n'avons pas idée de ce que pouvait être la valeur d'un texte dactylographié à l'époque. D'abord, il fallait avoir la machine. Les machines étaient répertoriées, numérotées, surveillées. Il fallait avoir du papier carbone pour faire différents exemplaires, et le papier pleure. Et tout cela donnait lieu à un véritable trafic souterrain, parce que dès qu'on achetait du papier carbone, on était suspect. Alors, d'immenses bonnes volontés se mettaient de la partie, pas seulement pour faire ces opérations, parfois extrêmement complexes et longues, parce que retaper entièrement un texte comme le pavillon des cancéreux ou le premier cercle, c'est très long, hein, mais aussi pour les dissimuler. Donc, chaque œuvre devait être dissimulée ou sauvegardée dans 7 ou 8 endroits différents, ce qui supposait 7 ou 8 amis fidèles, prêts à se sacrifier pour sauvegarder cette œuvre.
Mais vous dites, l'œil qui ne dort jamais, c'est pas nécessairement le KGB, ça peut être la structure officielle qui organise, ici les écrivains, ailleurs dans d'autres domaines, les autres artistes. 1967, cette année-là, Solzhenitsyn, dans une lettre au Congrès, demande l'abolition de la censure, mais il doit passer par les fourches caudines de la section prose de l'Union des écrivains pour demander la publication du pavillon des cancéreux. Alors il a des partisans, l'Union des écrivains, d'autres doivent avoir peur, d'autres encore lui sont complètement opposés.
Oui, ce qui nous a valu la transmission en Occident, quelques années plus tard, des minutes d'une des réunions décisives de l'Union des écrivains, dans laquelle il était convié lui-même à se justifier d'avoir fait passer à l'Ouest sa littérature et d'avoir fourni à l'Occident des armes contre, la Sainte-Russie.
Alors, vous tenez entre les mains un document qui tient du samizdat français, parce que vous avez préparé à partir de ces débats une dramatique pour France Culture réalisée par Georges Perroux. Ouais. Nous avons cherché cette dramatique dans les archives de l'INA. Ouais. Elle n'y a jamais été versée.
Ah, c'est dommage.
Mais vous avez le texte, là, sous les yeux.
Il me reste le texte officiel même, ouais, signé de France Culture 1969. Et ça m'amuse parce que j'ouvre une page au hasard et je trouve parmi les intervenants de cette honorable union des écrivains une déclaration en page 40 de Monsieur Baroudjine. Et je vous la lis textuellement. Je suis un de ceux qui, dès le début, n'ont pas partagé l'admiration pour l'œuvre de Solzhenitsyn. Déjà, la maison de Matryona était beaucoup plus médiocre que sa première œuvre. Et le premier cercle contient beaucoup de points faibles. Staline, Abakumov et Postrebitchev sont représentés de façon naïve et primitive. Le pavillon des cancéreux qui a suivi est une œuvre anti-humaniste.
Et donc il va finir par être exclu de l'Union des écrivains.
Alors pour toutes les raisons possibles, évidemment, il sera exclu en 69. Et c'est le moment où l'on a pris conscience vraiment en France que toutes les œuvres qui jusque-là avaient filtré jusqu'à nous par les moyens du samizdat ordinaire préludaient à une œuvre beaucoup plus importante que l'URSS ne voulait pas voir publié.
1969, il se réfugie dans la datcha d'un artiste très officiel et très courageux, Rostropovitch. Il va y passer quasiment deux années jusqu'en 1971.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La réception de Solzhenitsyn en France avec Luc de Goustine, 100 ans après la naissance de Solzhenitsyn. Rostropovitch, on l'entendait dans la suite numéro 3 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, reçoit l'écrivain qui est vraiment de plus en plus entravé, mais qui en même temps, en 1970, reçoit le prix Nobel de littérature, ne peut aller à Stockholm faire son discours de peur de se voir fermer les frontières de son pays. Alors, Luc de Goustine, à ce moment-là, vous êtes toujours éditeur au Seuil, mais les œuvres qui ont valu le Nobel de littérature, le premier cercle, le pavillon des cancéreux, comment ont-elles été publiées en France?
Ah, c'est très difficile de savoir exactement par quel biais elles sont arrivées entre les mains des éditeurs qui ont publié ces œuvres. Parce que certaines œuvres partaient du RSS à l'époque, portées par un certain Victor Louis, qui était un agent double, très connu des milieux journalistiques, et qui était, pour ainsi dire, missionné pour exporter des œuvres en Occident pour faire accuser les écrivains de manœuvres anti-soviétiques. Donc, on ne sait pas. À mon avis, quand même, le réseau d'amitié dont nous parlerons plus tard a joué en faveur de Solzhenitsyn parce que certaines de ses œuvres ont été publiées en russe
à Paris
pour sauvegarder les droits. Et ceux qui faisaient cette chose tout à fait remarquable, c'était une maison d'édition russe, de l'immigration russe, d'ailleurs très traditionnaliste et orthodoxe, qui était dirigée à l'époque par Nikita Struve, qui nous a quittés tout récemment. Et ils ont publié donc les unes après les autres les œuvres de Solzhenitsyn, ce qui donnait une base juridique à leur publication en France.
Et vous, comment faites-vous Vous êtes sur les rangs pour signer un contrat en bonne et due forme, mais avec qui? Avec un représentant légal de Solzhenitsyn?
Mais là, c'était une révolution. Parce que nous n'aurions pas, nous, au Seuil, où j'étais chargé de la littérature étrangère, surtout de l'Europe de l'Est, nous n'aurions pas pris le risque de publier une œuvre qui n'était pas complètement agréée par son auteur. Et voilà qu'en plein été 71, j'ai reçu un coup de fil d'un de mes meilleurs partenaires et amis allemands, qui est Otto Walter, directeur littéraire des éditions Piper à l'époque, et qui m'appelle pour me dire « Est-ce que tu veux Solzhenitsyn ?» Alors, j'ai dit « Quoi? Comment ?» Il m'a dit « Je peux vous brancher, le Seuil et toi, sur le premier tome de l'immense cycle romanesque sur la Révolution qui paraîtra plus tard sous le titre de « La Roue Rouge » et qui s'appelle maintenant Août 14, car Solzhenitsyn a, pour la première fois, un représentant légal en Occident, qui est un avocat à Zurich, avec lequel je peux te mettre en contact.
Mais en amont, il y avait Heinrich Böll, l'écrivain allemand, très proche de Solzhenitsyn.
C'est ce qu'on a su par la suite.
Vous ne le saviez pas à l'époque?
Non, à l'époque pas, bien que Böll ait été l'un de nos auteurs. Mais je pense que le réseau a dû jouer. Böll approuvant le Seuil... Le Seuil me donnant plein pouvoir pour signer ce contrat, nous avons fait boucler la boucle. Et donc je suis allé en Suisse immédiatement chercher le manuscrit et nous l'avons mis aussitôt en traduction.
Alors juste un mot, comme les troubadours, vous n'avez pas beaucoup parlé de vous, et comme les troubadours, la fidélité peut vous amener à la rébellion, mais... Pourquoi n'avez-vous pas continué, vous, personnellement, à assumer l'œuvre de Solzhenitsyn, parce que vous étiez assis sur un trésor?
Oui, c'était un trésor en termes de promotion, d'autopromotion et de carriérisme. Mais je suis pas du tout m'en fait, d'abord. Et ensuite, il se trouve que j'avais un contentieux moral avec Paul Flamand, qui était le directeur des éditions du Seuil, et que j'ai été amené, lorsque lui-même m'a proposé de prendre comme récompense la responsabilité de l'ensemble du secteur étranger, à lui dire que ça ne serait pas de mon goût, étant donné son attitude à mon égard sur des questions personnelles.
Malgré l'exploit.
Donc j'ai laissé l'exploit, tout son bénéfice à Claude Durand, qui en a fait un usage fidèle pendant quelques années, jusqu'en 74-75, puis a fait ce que la morale éditoriale de l'époque réprouvait, qui était de se faire agréer soi-même comme agent de l'auteur. Alors, comme il a fait par la suite un travail très utile et très fidèle à Solzhenitsyn, je ne le critique pas en tant qu'éditeur. Mais ça a été un rude coup pour le Seuil, qui d'un seul coup a vu migrer vers Fayard, pour faire la carrière de Claude Durand, une œuvre aussi considérable.
L'archipel du Goulag commence à paraître en 1973, d'abord chez Imka, chez Nikita Astrouf, puis en français. Et c'est là que la grande polémique se déchaîne, parce que au Parti communiste, notamment, on s'aperçoit que le but ultime, au fond, de Solzhenitsyn, c'est de faire tomber le régime.
Solzhenitsyn attaqué une nouvelle fois dans son pays. La presse soviétique dénonce aujourd'hui encore ce qu'elle appelle les méchantes calomnies d'un réactionnaire. Et elle le dénonce comme un larbin et un pique-assiette de la bourgeoisie. En France, le comité central du PC estime qu'on en fait trop autour de Solzhenitsyn et il s'en prend aux activistes de l'antisoviétisme.
La bourgeoisie est effrayée devant la compétition entre le capitalisme et le socialisme. Alors que la société française connaît une crise profonde, alors que le capitalisme en général connaît une crise profonde, le socialisme, lui, va de l'avant. Le socialiste ne connaît ni la vie chère, ni l'inflation, ni le chômage, ni la crise de l'énergie.
Mais est-ce qu'il connaît la liberté d'expression?
Voilà la première raison de la campagne. Deuxième raison, la détente internationale, les progrès de la coexistence pacifique. Nous avons chez nous des gens qui veulent revenir à la période de la guerre froide.
Georges Marchais, 1974, a raison de mettre le débat très haut, parce que il s'agit d'une guerre entre deux géants, l'Union soviétique et Solzhenitsyn.
Oui, mais bon, tout le monde s'est trompé sur ce combat. Solzhenitsyn n'était pas anticommuniste, la question ne se posait pas pour lui, c'était pas du... il n'était pas réductible à l'une des catégories qui gouvernaient les esprits à l'époque.
Enfin, il était quand même radicalement anticommuniste, il n'y avait rien à sauver du régime.
Oui, mais ce n'était pas son objet. Solzhenitsyn était dans l'histoire longue. Il était en train de diagnostiquer ce qui avait précipité la Russie et une partie du monde à plusieurs reprises dans cette crise pathologique qu'il appelle la révolution. Pour lui, la révolution est anomalie. Et c'est pas par réaction, c'est parce qu'il a constaté l'irréalisme complet des réformistes qui, en avril 17, ont ouvert la voie aux radicaux révolutionnaires d'octobre. Il a vu comment cheminait l'histoire, comment elle se dégradait, se défaisait un pays, comment le pouvoir arbitral de l'État disparaissait au profit d'une bureaucratie. Il a vécu tout cela. Et c'était pas spécialement contre le communisme qu'il en avait. Il était d'ailleurs un critique fondamental du capitalisme.
Ah, expliquez ça.
Solzhenitsyn était chrétien. Alors, je ne sais pas à quelle idée se font nos contemporains du christianisme, mais on ne voit pas le Christ donner les pleins pouvoirs à une bureaucratie. Il a suffisamment combattu, ou en tout cas était l'objet de la réprobation des bureaucraties de l'époque. Et non plus qu'à une classe idéologique. Les pharisiens lui étaient hostiles. C'est l'invention perpétuelle de la solution humaine. C'est l'échelle humaine. C'est le regard sur l'être propre. C'est ça qui gouverne Solzhenitsyn. Et donc, il est difficile d'entrer dans son esprit, comprendre son analyse de la Révolution russe, notamment, et celle de la Révolution française, qu'il met en parallèle, sans comprendre à quoi il se réfère au fond. Il se réfère au fond à un homme spirituellement libre et assumant ses actes jusqu'au bout, et n'abdiquant jamais sa liberté au profit de rien. Et à ce moment-là, notre univers, à nous, des démocraties des libérales, est aussi critiquable que le communisme.
Relire Solzhenitsyn, vous nous le recommandez, Luc de Gustine, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Sur notre site, on trouvera les références nouvelles que propose Fayard et les éditions de Lerne. Et puis aussi à la mairie du 5e arrondissement de Paris, une exposition sur Solzhenitsyn, où on voit notamment le fameux tube dans lequel une partie de l'archipel du Goulag a été dissimulée dans la terre estonienne, et on était bien embarrassé quand elle était gelée. L'émission a été préparée par Ilinka Negulesco avec à la technique Tiffany Battistel. La réalisation, c'était Audrey Ripouille.